Frères et sœurs bien-aimés, pour méditer la page d'évangile de ce dimanche, il nous faut tout d'abord un petit peu la défricher pour mieux l'entendre. Saint Marc ouvre ce passage d'évangile par ces mots « Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent ». Notre Seigneur Jésus le Christ est né dans la cité du roi David, Bethléem. Mais le lieu où il s'est établi avec la bienheureuse Vierge Marie et sous la houlette de Saint Joseph, c'est la ville de Nazareth. Jésus retourne donc dans la ville qui, si elle ne l'a pas vu naître, l'a vu grandir, où sa famille s'est implantée. Saint Marc a précisé « Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent ». Si nous venons de parler du sens littéral, voilà qu'au sens allégorique se trouve contenu tout l'Évangile. Le Seigneur Jésus a pour origine le ciel, la vie éternelle, a pour origine le Père et le Saint-Esprit, lui qui est sans commencement ni fin. Et voilà que nous qui sommes ses disciples, nous allons le suivre dans cette origine divine. C'est tout l'Évangile. Le Seigneur descend du ciel pour que nous puissions monter avec lui et entrer en paradis dans la cité sainte. Dans cet Évangile, devant l'étonnement de la sagesse du Seigneur qui prêche le jour du sabbat en la synagogue, il y a cette interrogation, n'est-il pas le charpentier ? Voilà une petite indication intéressante, pour deux raisons. Tout d'abord, cela signifie que, selon la tradition juive, dans sa vie cachée, notre Seigneur a repris le métier de celui qui lui tient lieu de père, Saint Joseph. Il est devenu lui-même charpentier. Et il est identifié au nom de cette vie cachée où le Seigneur a vécu à Nazareth comme le charpentier. À l'époque de notre Seigneur Jésus le Christ, le charpentier ne réalise pas seulement le toit d'une maison. Il en est tout autant l'architecte et le maître d'œuvre en son ensemble. Sens allégorique de cette petite phrase. Celui qui est venu pour construire la maison de Dieu, où sera rassemblé l'ensemble du genre humain et que nous appelons l'Église, a d'abord appris au sens littéral à bâtir des maisons concrètes ici-bas sur la terre. De telle sorte que lorsqu'il nous dit qu'il nous a préparé une place là-haut ou que les demeures sont nombreuses dans la maison du Père, nous pourrions presque dire qu'il sait de quoi il parle. Il fut charpentier. La seconde indication nous laisse entendre que Saint Joseph n'est plus ici-bas sur la terre. Il n'est pas identifié comme le fils du charpentier, il est identifié comme le charpentier et on va nous parler ensuite de sa sainte mère, la Vierge Marie. Saint Joseph nous a quittés dans un de ces silences dont il est si coutumier dans l'Évangile, puisqu'aucune parole ne nous est jamais rapportée de Saint Joseph. Il est l'homme du songe, il dort toujours avant de se réveiller pour accomplir sa mission, prendre défense et de la mère et de l'enfant dans le danger ou revenir s'établir en cette vie cachée voulue par le Seigneur à Nazareth. Ensuite, pour finir de défricher cette page d'Évangile, eh bien vient cette appellation de frère concernant Jacques, José, Jude et Simon. Frère, c'est à entendre au sens de la parenté. Nous avons, dans notre tradition, dans notre culture française, un certain nombre de mots de vocabulaire assez précis pour parler des différents degrés de famille. Mais toutes les cultures n'ont pas les mêmes mots. Par exemple, en italien, Nipote signifie autant le neveu que le petit-fils. Ils n'ont pas les mots aussi précis que nous pour parler des liens familiaux. Il y a bien des pays, et la tradition d'Israël n'y échappe pas, qui n'ont pas nos subtilités sur le cousin germain ou le second, le cousin au deuxième ou troisième degré. Ces appellations de frères sont orientales. Lorsque nous vivons dans une même cité, nous faisons partie d'une même parenté. Et dans le pays Toy, cette réalité de parenté est également importante, puisqu'il y a les perdants lors des obsèques, la proche famille, mais il y a aussi les représentants de la parenté. Et je suis toujours admiratif de cette logique généalogique qui fait que je viens représenter la parenté parce que le cousin de mon grand-père était au... Ce n'est pas ce qui se passe en Israël. Ensuite, eh bien maintenant, il nous faut revenir à pourquoi le Seigneur Jésus étonne, après avoir ainsi défriché cette page d'évangile dans les quelques pièges qui pourraient nous arrêter. Il nous faut comprendre que le Seigneur Jésus, je vous le disais dimanche dernier, a d'abord opéré un exorcisme saisissant. Il a permis la libération d'un homme tourmenté par une légion de démons, démons qu'il a envoyés dans des ports, ports qui se sont jetés, plus de 2000, nous rapporte saint Marc, du haut de la falaise. Ensuite de quoi, passant sur l'autre rive, dimanche dernier, non seulement le Seigneur a guéri la femme qui avait ses pertes de sang innombrables, mais surtout a ressuscité la fille d'un chef de synagogue. Il lui a rendu la vie. Autant de miracles, saint Jean préférerait le mot « signe », qui sont à interpréter pour toujours poser la question essentielle, celle de l'acte de foi. Mais qui est-il donc ? Nous l'avons également entendu, cette question posée par les disciples mêmes, lorsque le Seigneur endormi fut réveillé dans la barque, alors que la tempête sévissait. Qui est-il donc celui-ci pour qu'il commande même au vent et à la mer et que ceux-ci lui obéissent ? Mais qui est-il donc celui-ci pour que les démons lui obéissent instamment sans rechigner ? Mais qui est-il donc celui-ci qui rend même la vie à cette jeune fille qui était morte ? Voilà le Seigneur Jésus, après ses hauts faits, qui revient dans sa ville où il a grandi. Il entre dans la synagogue, là où, petit enfant, il a appris à lire les saintes écritures aux côtés de saint Joseph. Il entre dans cette synagogue, lui qui est l'accomplissement de chacune des promesses de Dieu, chacune des prophéties qu'on lui a apprises lorsqu'il était enfant. Et se saisissant des rouleaux de la Torah, après en avoir fait lecture, se met à enseigner le peuple de Nazareth. Il est à présent un rabbi, c'est-à-dire un maître en Israël qui passe de localité en localité pour enseigner le mystère de la loi. Mais son enseignement va beaucoup plus loin. Là encore, on se pose la question de son autorité. Mais qui est-il donc pour parler avec cette autorité ? Pour revenir sur les traditions anciennes, cette question nous est aussi posée. Pour vous, qui suis-je ? Nous interroge alors le Seigneur aux côtés de l'apôtre Pierre. Et celui-ci de répondre, vous êtes le Messie, sous-entendu l'accomplissement de toutes les promesses faites à Israël, le Sauveur que Dieu devait nous envoyer. Mais ce Sauveur ne vient pas seulement du milieu des hommes, il est certes le fils du mari, le charpentier, mais il est tout autant le fils de Dieu à l'œuvre. Le Seigneur Jésus étonne donc ceux qui l'ont vu grandir pour son autorité, pour les signes et les miracles qu'il accomplit. Et saint Marc de préciser que là, à Nazareth, où il connaît tant de visages familiers, il ne peut accomplir aucun miracle. Non pas qu'il ne le puisse pas, mais cela nous apprend plutôt, en retournant la question, ce qu'il faut pour que Dieu opère en nous des miracles et des merveilles. L'ouverture du cœur est celle de l'acte de foi. opérer en nous cette conversion qui nous ouvre au règne de Dieu, à sa puissance, à sa miséricorde, à son amour si bienveillant. Voilà que les cœurs sont fermés, c'est le charpentier, c'est le fils de Marie, sa parenté est là établie par chez nous, il ne peut pas faire ça, c'est pas l'œuvre d'un charpentier. Voilà les cœurs fermés au règne de Dieu. Puissent donc nos cœurs ne pas être fermés à l'œuvre que Dieu veut accomplir en nous. Alors nous pourrons dire avec la bienheureuse Vierge Marie au soir de notre vie, ou même avant, « Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. » Le Seigneur prend acte de ce manque de foi qui l'étonne, et va tout de même imposer la main à quelques malades qu'il va alors guérir. Nul n'est prophète en son pays. Et cette petite phrase peut résonner parfois dans nos familles, où nos familles savent que nous sommes chrétiens, et où à la moindre épreuve, nous pouvons être épinglés dans notre foi, où nous pouvons même être rejetés au nom même de notre foi. Nul n'est prophète en son pays. Nul n'est prophète en sa famille, et voilà que le Seigneur Jésus a vécu ce qui, pour beaucoup parmi nous, peut être une souffrance. Avoir essayé de transmettre la foi à ses enfants et voir que cette foi n'a pas grandi pour l'heure. Eh bien, voilà que le Seigneur s'étonne du manque de foi de ses contemporains. Puisse-t-il ne pas s'étonner du manque de foi de nos âmes ? Nous vous ouvrons, Seigneur, nos cœurs, nos âmes, pour que vous puissiez faire en vous votre demeure, et de cette demeure d'ici-bas, que nous puissions être, comme le commence l'Évangile, nous puissions être chacun réunis, puissions-nous vous suivre en disciples dans votre lieu d'origine, qui n'est autre que l'être même de Dieu. Ainsi soit-il.